Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Les journalistes ont parfois de drôles d'idées, comme par exemple d'essayer d'inscrire un chat parmi les votants à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Le chat en question s'appelle Gaston, sa maîtresse est journaliste au Monde. Elle voulait tester le niveau de vérification exigé pour participer à ce scrutin. Résultat, Gaston a voté blanc. C'était samedi dernier, on attend les résultats du premier tour, ce sera dans la soirée. Bon, alors le jour où nos animaux de compagnie auront accès comme citoyens aux isoloirs n'est évidemment pas pour demain, mais leur présence dans le débat politique est de plus en plus visible. Ainsi, cette tribune publiée ce jour, à nouveau dans le journal Le Monde, en faveur de la création d'un secrétariat d'État à la condition animale. Les signataires, ils sont une vingtaine, y voient le moyen d'une meilleure prise en compte, au plus haut niveau politique, des droits des animaux. Cet appel s'inscrit dans une période de démarginalisation de cette question. Les vidéos d'abattoirs publiées par l'association L214 ont notamment contribué à une forte sensibilisation du public et ont contraint les politiques à réagir, ce qu'ils ont fait d'ailleurs en créant une commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage, laquelle remettait ses conclusions il y a quelques jours. Alors, faut-il confier la cause animale aux politiques ? Eh bien, c'est la question que nous allons aborder ce soir en compagnie de trois invités. Laurence Abeille, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée Europe Écologie Les Verts, députée du Val-de-Marne. Vous êtes membre du groupe d'études protection des animaux à l'Assemblée nationale. Vous nous expliquerez peut-être ce que vous y faites. Et par ailleurs, vous étiez membre de la commission d'enquête dont je viens de parler sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français. Ça, c'était le titre exact. Le rapport a donc été publié fin septembre. Pour discuter avec vous, Corinne Peluchon, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, spécialiste de philosophie politique et d'éthique appliquée. Vous avez publié l'an dernier au Seuil Les Nourritures et vous signez la postface de Zoopolis, une théorie politique des droits des animaux, ouvrage de Sue Donaldson et Will Kimlicka qui vient d'être publié chez Alma Éditeur. Et puis notre troisième invité, c'est Gilles Boeuf. Bonsoir.
Bonsoir.
Biologiste, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, ancien président du Muséum d'Histoire Naturelle. Vous êtes conseiller scientifique au cabinet de Ségolène Royal, ministre de l'Environnement. Et vous êtes un des signataires de cet appel que j'évoquais en faveur de la création d'un secrétariat d'État à la condition animale. J'ajoute enfin que vous êtes un des contributeurs du livre « Révolutions animales » que vient de publier ces jours-ci les éditions Les Liens qui libèrent. Alors, puisque c'est vous qui avez co-signé cet appel, Gilles Boeuf, c'est à vous que j'ai réservé ma première question. Pourquoi appeler à la création d'un tel secrétariat d'État à la condition animale ?
Bah, pour qu'on s'occupe d'eux, tout simplement. Je suis un biologiste marin et on a inventé le terme de biologie marine, alors qu'il n'y a pas de biologie terrestre. Pour qu'on en parle, il n'y aurait pas de biologie marine, on n'en aurait jamais parlé. C'est pareil pour les animaux. Et c'est vrai que ce qui m'a un petit peu irrité dans les débats récents, c'est qu'on me dit que depuis la loi de janvier 2015, les animaux sont devenus sensibles et intelligents. Je regrette. C'est nous qui enfin reconnaissons cette sensibilité et intelligence qu'ils ont depuis qu'ils existent. On oublie avant nous. Et si eux avaient vraiment été aussi stupides, nous serions nous aussi totalement stupides.
Oui, parce qu'auparavant, on les considérait comme des biens meubles. On appelle à la création de ce secrétariat d'État pour qu'on s'occupe de nous. On s'occupe déjà de le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement auquel vous contribuer comme conseiller scientifique, s'intéresse déjà à cette question, à ces questions.
Oui, mais imparfaitement. Ce sont toujours effectivement des biens marchands à l'heure actuelle, les animaux. Donc c'est vrai que dans le texte de janvier 2015, on a fait des progrès. Le code rural reconnaissait qu'on est parolé torturé déjà. Mais c'est au niveau du code rural, pas du système plus ouvert. Et simplement aujourd'hui, notre désir est très clair. C'est que, en fait, je me suis beaucoup battu pendant longtemps pour un droit de l'animal. J'ai arrêté, parce que je comprends qu'en face, il y en a beaucoup trop de forces vives très violentes. Simplement aujourd'hui, puisque nous, on s'abroge, nous, humains, homo sapiens, la dignité, cette dignité nous oblige, donne des devoirs de respect vis-à-vis des autres. Et qu'on apprenne enfin, dans tous les discours politiques, à parler aussi des non-humains sur la planète. On n'en parle jamais. Donc rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de faire une telle demande.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Laurence Abeille et Corinne Peluchon ? Laurence Abeille, est-ce que c'est une bonne idée ? Ce serait une bonne chose que de créer un tel secrétariat d'État ? Ou un ministère, d'ailleurs, on s'est pas obligé de rester au niveau du secrétariat d'État.
Moi, je pense que oui, même si
voilà, je pense que simplement, comme on a fait à un moment donné, il a fallu faire un secrétariat pour les droits des femmes, sans doute pour la visibilité, pour visibilité large du sujet de la condition animale, faut-il le faire ? Donc je soutiens la proposition. Et c'est vrai que jusqu'à présent, et depuis toujours, les ministères, l'organisation politique s'est occupée de l'exploitation des animaux, dans tous les sens du terme, aussi bien pour le divertissement que pour l'élevage, la nourriture, etc. Et jamais réellement de prendre en compte l'animal comme un être vivant, doué de sensibilité, intelligent, effectivement, c'est pas nouveau, on le sait depuis maintenant très longtemps. Et au fond, toutes ces découvertes scientifiques liées à l'animal, aux animaux, ne se sont absolument pas traduites dans les modes d'organisation.
Donc vous dites oui, mais je sens que c'est un oui qui n'est pas totalement convaincu, enfin pas convaincu à 100%, disons.
Mais parce que ça suffit pas. Je veux dire, il faut pas penser qu'un secrétariat d'État peut résoudre la question. Cela étant, j'y suis favorable parce que ça met en lumière le sujet, ça lui donne une publicité et c'est une façon de prendre en considération le sujet. Maintenant, ça, il est évident que le poids des habitudes, le poids des routines, l'agroalimentaire, l'élevage, etc., ont des intérêts tels dans le sujet que voilà, ça ne sera pas suffisant.
Sur cette même question, Corinne Peluchon, vous diriez plutôt oui, plutôt non ?
Alors d'abord, loin de moi l'idée de m'opposer à une démarche généreuse et dont l'intention est très bonne. Néanmoins, donc nous sommes tous d'accord pour dire que les animaux doivent entrer en politique. La question est de savoir comment. Et il me semble que la question de la création d'un secrétariat d'État à la condition animale est un petit peu une fausse bonne idée, car un secrétariat d'État, c'est quand même un qui est rattaché à un ministère de plein exercice, sous l'autorité duquel il travaille, a peu d'autonomie, il ne peut signer de décret, il ne peut siéger au Conseil des ministres, sauf si le président lui a donné une mission qu'il doit mener pour présenter une réforme, ce qui est rare. Et en général, il y a deux types de secrétaires d'État. Ou bien c'est un secrétaire d'État qui est nommé, qui est un adjoint à un grand ministère, comme par exemple Arlène Désir cette année, qui travaillait comme secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, ou bien c'est un secrétariat d'État pour honorer des catégories artisans ou anciens combattants. Donc on voit bien que pour mener, pour défendre sa cause dans ce jeu-là, avec ce statut et de second rang, eh bien il faut ou une personnalité extrêmement forte, un peu à la Bernard Kouchner en son temps, ou en tout cas il peut, et Françoise Giroud le disait quand elle était secrétaire d'État à la condition des femmes, qu'elle avait pas mener une action transversale, justement. Or, et ce sera mon dernier point, si la question animale nous intéresse, et la cause de l'humanité intéresse la manière dont nous pensons que la justice ne doit pas seulement intégrer les intérêts des humains, mais que les intérêts des animaux doivent entrer également dans la définition du bien commun, étant entendu que ce sont des humains qui vont formuler cela, eh bien, cette manière d'inscrire la cause animale dans le politique, qui a d'ailleurs donné lieu à des théorie, j'en parlerai avec Imlika ou avec ce que j'ai fait, eh bien, ne peut pas se satisfaire du secrétariat d'État qui risquerait, mais je prends un conditionnel, de la reléguer un peu à la périphérie.
Voilà, donc davantage de visibilité peut-être pour cette question, mais aussi un risque d'isolement en traitant cette question. Peut-être en ayant la tentation de dire, bah voilà, il y a un secrétariat d'État, donc maintenant tout ce qui concerne les animaux, on le relègue à ce secrétaire d'État, plutôt que d'en faire une question transversale, Gilles Boeuf. C'est une question intéressante sur le plan de savoir comment on prend en charge cette question sur le plan politique.
Si ça existe et qu'on en parle un petit peu plus, ça peut être que bien, pas mauvais. Tout va dépendre, comme disait Corinne, de la personne qui va s'en occuper. Mais on continuera après les animaux, bien sûr, et quand on parlera des pêches, quand on parlera effectivement de l'agriculture, de la forêt, de la biodiversité et du climat qui change. Hein. Ils sont quand même parmi les meilleurs révélateurs du climat qui change. C'est en les regardant qu'on a appris beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est une question essentielle pour moi. Je reviens avec ma biologie marine tout à l'heure. Si ça n'existe pas, on n'en parle pas. Donc aujourd'hui, on met ceci en place. Ce n'est pas la panacée universelle, je suis. D'ailleurs, quand on m'a demandé « est-ce que tu veux signer ?», j'ai dit « écoutez, pourquoi pas ?» Je suis pas fondamentalement convaincu que c'est quelque chose qui sera suffisant, j'en suis même pas sûr du tout.
Vous n'êtes pas candidat pour le poste?
Ah non, moi, pas du tout, pas du tout. Là, non, pas du tout. Moi, c'est... Non, non, moi, je suis un scientifique, je sais faire que ça.
Laurence Abeille, vous êtes une politique. C'est un poste qui pourrait vous intéresser. Imaginons, allez, je...
Je suis élu en
2017, président de la République, et je vous nomme, je vous propose ce poste de secrétaire d'État à la condition animale. Qu'est-ce que vous y faites?
Écoutez, ça dépend un peu de qui est président de la République, qui est le Premier ministre.
C'est moi, je viens de vous le dire.
Ah bah si, c'est vous, alors bon, pourquoi pas, ça, on peut... En tout cas, on pourra en discuter. Non, mais en fait, c'est vrai qu'il y a un sujet, par exemple, actuel, hein, qui est la filière viande est en train de faire une grande campagne, enfin de démarrer une grande campagne dans l'éducation nationale pour vanter les mérites de la consommation de la viande, hein, du bœuf et du veau, précisément. Ça va démarrer en 2017, cette campagne. Moi, je trouve ça absolument hallucinant aujourd'hui qu'on puisse démarrer ce type de campagne, alors même qu'on sait que l'élevage intensif est très nuisible sur la dégradation climatique, enfin, à des effets là-dessus, sur les questions de santé, qu'on peut parfaitement se passer de viande et vivre bien.
Donc bref, ça pourrait être une forme de contre-pouvoir par rapport au ministère de l'Agriculture.
En même temps, moi, il faudrait que le contre-pouvoir soit effectif, parce que mais c'est aussi le ministère de l'Éducation nationale, je pense, retransmet dans ces campagnes un certain nombre d'éléments qui sont portés par les lobbies, en particulier pour le coup le lobby de la viande, mais ça peut être d'autres lobbies liés à d'autres industries. Et là, un secrétariat d'État peut apporter sans doute, mais ça dépend vraiment de la place qu'on lui laisse, parce que le secrétaire d'État n'a que la place que lui laisse le ministre. C'est ce que Corinne Pelluchon a dit, elle a raison, et ce que le Premier ministre, le Président de la République a envie d'impulser comme changement dans la société profond pour ce qui concerne la question de la condition animale. Et on en est vraiment très très loin.
Oui, c'est très vrai. Moi je crois que la question clé, ce serait de faire en sorte que les candidats présidentiels, même si aujourd'hui ne sont pas encore convaincus par l'universalité de cette cause, le deviennent peu à peu. Je crois que l'objectif que nous devons avoir chacun dans son rôle, hein, moi je ne serai pas du tout candidate à ce poste-là, loin de moi, mais
oui, j'en avais conclu ça, puisque vous êtes plutôt contre.
Mais c'est surtout que je crois que la question animale nous interroge sur la place que chacun doit avoir sur ses compétences, ses limites, et qu'on la sert quand on ne se met pas en avant, mais justement on utilise ce qu'on a de mieux. Et nous sommes scientifiques, moi philosophe, hélas pas scientifique, mais bon. Donc pour reprendre la question, je crois que cette question, elle gagnera, elle avancera si nous arrivons à convaincre les candidats qui seront, ou le futur président de la République, qu'elle est importante et qu'il s'agit, et c'est très difficile, d'arriver à des accords sur fond de désaccords.
Est-ce que vous avez l'impression, Corinne Pelluchon, que c'est justement en train de bouger, que dans le personnel politique et dans ceux qui sont les plus médiatisés, c'est une question qui commence un peu à monter?
Pas encore, parce que je crois... Pensons à des grands débats de l'histoire, qui sont différents, mais quand même. L'abolition de l'esclavage. Ou plus proche de nous, l'abolition de la peine de mort, qui a été une grande affaire, qui divisait les Français, qui divisait les politiques, qui n'aurait pas du tout été le résultat de sondages. Eh bien, il a fallu la personnalité de Robert Badinter pour porter cette cause et la traduire ce qu'est la justice, qui n'est pas la somme des intérêts, qui n'est pas la somme des opinions, donc il fallait une personnalité, mais aussi un président qui s'est emparé de cette question, voyant qu'elle était importante, que c'était le moment, et qu'elle était irréversible, qu'elle faisait partie du sens de l'histoire. Je crois que la question animale, très différente de l'abolition de la peine de mort, mais fait partie aussi du sens de l'histoire. Le problème, et je m'arrêterai là, c'est que nous touchons des conflits d'intérêts majeurs. Que la grande question, c'est la réorganisation de l'économie. Et c'est cela. Et la chance que nous avons, nous qui sommes convaincus par cette question, c'est qu'aujourd'hui, toute personne, même ceux qui ne sont pas marxistes, même celles qui ne sont pas marxistes, savent que les conditions de production et d'exploitation dans tous les domaines, surtout dans les produits animaux, pour l'agriculture, produisent des contre-productivités, tant au niveau écologique, au niveau sanitaire, de la santé, qu'au niveau des conditions de vie des humains et des animaux. Et que là, c'est l'occasion, la chance, comme l'écologie, de promouvoir un autre type d'économie. Ça prendra du temps et il faudra des hommes sages, modérés, capables de parler aux autres, à tous ceux qui, depuis l'enfance, vivent dans une société spéciste et aussi ont gagné leur estime d'eux-mêmes et leur argent en exploitant les animaux.
Laurence Abeille, Gilles Boeuf, ces hommes-là ou ces femmes-là, bien entendu, ils n'existent pas encore aujourd'hui. Qui pourrait être l'équivalent de ce qu'a été Robert Badinter pour la peine de mort par rapport à la condition animale? Laurence Abeille.
Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y, y a plusieurs personnes qui travaillent sur le sujet. Il y a des politiques. J'ai travaillé donc au sein du groupe Protection Animale avec la députée Geneviève Gaillard, qui était engagée députée depuis plus longtemps que moi.
C'est un groupe de l'Assemblée nationale.
Voilà, c'est un groupe, mais c'est vrai que c'est un groupe qui est ridiculement petit comparé au groupe d'études chasse qui rassemble une quantité énorme de députés et qui est un lobby extrêmement fort.
Il paraît même d'ailleurs que les groupes chasse à l'Assemblée nationale et au Sénat sont les groupes les plus importants numériquement.
Ce sont les plus importants, donc c'est vrai que c'est compliqué, et c'est compliqué d'autant plus que de l'autre côté, les associations qui travaillent sur la question de la condition animale sont très diverses, et il y en a beaucoup. Et elles ne travaillent pas sur les mêmes sujets. Alors moi j'ai entrepris au début de l'année de les rassembler, et donc ces 27 organisations nationales qui travaillent sur le sujet de la condition animale qui se sont rassemblées. On a fait un colloque auquel vous assistiez, Corinne Pelluchon, en juin. Et à cet automne, ils vont sortir, ces 27 associations, le pacte pour les animaux. L'idée, c'est de vraiment d'arriver à fédérer ce monde des associations de la condition animale pour réellement créer un pouvoir qui va influer sur les politiques, et particulièrement sur les élections présidentielles et législatives de 2017. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les défenseurs sur la question animale sont beaucoup trop dispersés. Il faut qu'ils se rassemblent pour vraiment peser sur les politiques.
Donc finalement, ce que vous nous dites, c'est plutôt qu'il faut promouvoir un mouvement qui irait du bas vers le haut, plutôt peut-être que d'imaginer quelqu'un qui incarne de manière un petit peu à la façon présidentielle, disons, cette question de la cause animale.
Il faut les deux. Il faut les deux. Je pense que d'abord la jeunesse aujourd'hui est très mobilisée sur le sujet, ce qui moi me donne beaucoup d'espoir. Donc ça veut dire que ceux qui vont faire de la politique demain, qui seront élus demain, seront des gens qui auront grandi avec une nouvelle conception, je pense, du lien avec l'animal, donc pourront le porter dans leur projet politique. C'est vraiment un espoir que j'ai.
Gilles Boeuf ?
Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Il ne faut pas les opposer, en fait. Je pense que si ça marche de deux côtés, c'est encore mieux. J'espère qu'ils vont se rencontrer au milieu pour des choses qui seraient plus efficaces qu'aujourd'hui. En fait, c'est un problème de prise de conscience. D'ailleurs, c'est lié à tout ce qu'on vit aujourd'hui, dans les grands désordres que l'on vit à l'heure actuelle, que l'homme a suscité lui-même, d'ailleurs. Et comme je dis souvent, chaque fois qu'on agresse cette diversité, on s'auto-agresse. L'homme est profondément animal dans sa physiologie. Je suis pas pour rien physiologiste, endocrinologue. Donc nous avons des caractéristiques totalement animales. On n'est pas que ça, puisqu'on en parle ce soir à une radio. L'humain a fait des tas de choses. Donc ça veut dire qu'on a vraiment, je le répète encore, une dignité qui nous oblige à nous occuper d'eux. Je prends un exemple tout simple. Les lémuriens en Australie, à Madagascar, 109 espèces en train de disparaître parce qu'on a coupé tous leurs arbres, sans aucune conscience du fait qu'enlever ces arbres pour faire des commerces à court terme allait les faire disparaître. C'est un bienfait pour l'ensemble de l'humanité. Donc aujourd'hui, il est clair que ces animaux, il faut qu'on les observe, qu'on les scrute, qu'on les regarde, qu'on apprenne à les aimer, et les enfants les aiment en général, et mieux on les aimera, mieux on les protégera. Et encore une fois, je refuse ce monde actuel où on utilise la nature comme une source de ressources. C'est bien autre chose que ça. On oublie le bien-être de l'humain là-dedans. Je termine sur un papier sorti dans The Lancet, c'est pas une revue écolo, il y a quelques années, qui montrait que les 30 dernières années de vie des humains, selon qu'on a accès ou pas à un grand parc au sein d'une grande ville, change complètement les maladies qu'on a, y compris la vue de l'écureuil et des petits moineaux qui se baladent dans le parc en question.
Alors cette prise de conscience, elle est quand même peut-être en train de gagner un certain nombre de responsables politiques. Vous évoquiez le groupe auquel vous appartenez à l'Assemblée nationale, Laurence Abeille, groupe d'études protection des animaux, dans lequel on retrouve aussi, enfin je dis aussi parce que c'est vrai que on s'attend pas forcément à les retrouver là, et Patrick Balkany et Alain Marceau qui est plus connu pour avoir dirigé la lutte antiterroriste à une autre époque, mais après tout, tout le monde est le bienvenu, j'imagine, dans cette question de la lutte pour la condition animale, et puis des personnalités beaucoup plus en vue, deux notamment qui ne se situent pas du tout sur à la même place de l'échiquier politique, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen qui participait à une convention de son mouvement consacré à la cause animale, justement. C'était il y a quelques jours, c'était le 11 octobre, dans lequel elle s'est dite favorable à la création d'une police de la protection animale et puis à l'obligation d'étourdir les animaux avant leur mise à mort. Ça fait partie des préconisations qui étaient celles de la commission d'enquête sur les abattoirs, même si on peut peut-être imaginer qu'il y a aussi des sous-entendus par rapport à cette obligation d'étardir les animaux du point de vue de Marine Le Pen. Et puis Jean-Luc Mélenchon, lui, c'était fin août à Toulouse, qui a dit notamment ceci. et après j'arrêterai, je vous laisserai parler. Vous devez changer votre régime alimentaire parce qu'on ne peut pas continuer comme nous le faisons dans les pays développés avec cette agriculture qui casse tout. Vous ne pouvez pas continuer avec les protéines carnées qui sont un encouragement aux fermes des 1000 vaches qui se constituent au prix d'un martyr de la population animale. Est-ce qu'à travers ces deux exemples, on peut imaginer, Corinne Peluchon, que la question de la condition animale sera enfin, peut-être, un objet de débat de la prochaine présidentielle?
Alors, je ne sais pas si ce sont ces personnes-là s'emparant de cette question qui sont le bon signal. Je ne sais pas. Hein, je ne peux pas deviner. Ce que j'espère, et ce que j'essaierai à mon niveau d'encourager, c'est que les personnes, même les futurs candidats, s'emparent de cette question, car elle est universelle. Il n'y a aucun parti qui peut se prévaloir de parler au nom des intérêts des animaux. C'est une cause non seulement universelle, qui concerne les animaux, mais aussi les humains, car elle interroge le droit que nous nous octroyons sur eux, elle interroge les modèles de production, elle interroge le lien entre eux et nous, elle interroge, je l'ai dit tout à l'heure, elle est un coup de projecteur sur un système économique que, faute de mieux, on peut appeler capitaliste, sans le réduire à l'opposition capital-salarié. Pas du tout, mais en pointant toutes ces contre-productivités. Et donc je crois que, et c'est pour ça que je crois qu'elle sera, moi pour moi, cette question demande qu'on ait fait la paix avec autrui. Ça, c'est pas une parole comme ça de bisounours. Je pense que une personne modérée seule peut la prendre en charge, car il ne faut pas désigner d'ennemis. Les éleveurs, les gens qui travaillent dans les abattoirs, ou les gens qui ne sont pas assez véganes. Vous voyez, je crois qu'un homme politique, la différence entre l'éthique et la politique, c'est que l'éthique, on peut être pur, on peut être puriste. Quand on fait de la politique, surtout dans une démocratie où il y a une pluralité, non seulement des intérêts, mais des visions du monde, il faut avoir la générosité consistant non seulement à prendre en compte les intérêts des autres et leurs opinions, mais aussi à changer d'avis. Et moi, je crois et j'espère que si on a un président ou une présidente, disons, modérée, sage, prudente, alors cette question s'invitera car elle est là.
Vous dites, Corinne Peluchon, cette question ne doit pas être monopolisée, disons, par une seule formation politique, mais il faut que dans tous les partis politiques, on s'intéresse à ces questions. Dans votre groupe Protection des animaux, il y a cette pluralité politique. Laurence Abeille, est-ce que vous discutez sur des sujets qui sont relativement consensuels ou est-ce qu'il y a des vrais débats politiques comme il peut y avoir dans des commissions, je sais pas, sur la justice, sur l'économie, sur les questions sociales?
Non, en fait, ce groupe, c'est un groupe d'études qui a produit des propositions de loi qui sont intéressantes, mais qui n'arrivent jamais finalement, qui n'arrivent jamais en discussion. Et c'est bien le problème, c'est quand on fait des propositions de loi sur la question de l'abattage, par exemple, on l'a fait récemment avec le groupe d'études, aucun parti, aucun groupe politique ne le reprend pour le mettre au débat. C'est des propositions de loi d'affichage finalement, et c'est un peu ça que je regrette dans le travail du groupe d'études, c'est que on en soit réduit, et ça c'est la faiblesse, hein, la faiblesse même de notre faiblesse, parce que les grands groupes politiques, l'UDI, les Républicains, les Socialistes, refusent de mettre à leur agenda parlementaire ces sujets-là.
Mais est-ce qu'au sein de ce groupe d'études, vous avez des débats politiques, c'est-à-dire des vraies divergences qui pourraient recouper d'ailleurs certains clivages politiques?
Non, c'est pas là, les débats n'ont pas vraiment eu lieu là. En fait, là où il y a des débats, c'est dans le groupe qu'on a constitué avec Geneviève Gaillard pour préparer le pacte pour les animaux. Et là, oui, il y a du débat parce que il y a des associations qui sont, le débat politique, il n'a pas vraiment lieu dans le groupe d'études. Moi, je voulais dire aussi par rapport à ce que disait Corinne Peluchon sur la question de la transformation économique. Je pense que c'est fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer dans ce système-là. La condition animale ne peut pas se satisfaire et exister réellement dans le système économique dans lequel on est. Donc forcément, et c'est pour ça que, alors moi je suis, c'est un des piliers d'écologie politique, c'est la question de la condition animale, même si c'est vrai qu'on a pu reprocher, et à raison, aux écologistes de ne pas seulement la porter. Moi je sais que j'ai travaillé sur le sujet récemment avec Yannick Jadot. Je souhaite vraiment que si les candidats y portent fortement ce sujet dans le débat politique présidentiel. Et puis je voudrais rappeler aussi que sur la notion d'amour des animaux, je crois qu'il faut, moi je me méfie beaucoup de l'amour des animaux, parce que moi j'ai rencontré des tas de
gens. Pourquoi? Parce qu'il y a une condescendance dans cette
approche-là. Parce qu'on aime les chiens, on aime les chats, mais on mange mange, on les mange, on porte de la fourrure, etc. Donc il y a cette notion d'amour est sans doute pas le bon vecteur. Je crois qu'il faut parler de respect ou simplement de considération pour l'autre qui est un animal, et donc de ne pas d'essayer d'éviter au maximum de l'exploiter et peut-être un jour de cesser totalement. Et là-dessus, moi pour moi le combat il va être aussi sur le sujet de la non-violence, c'est-à-dire que quand vous parliez d'une transformation aussi dans la société, de la façon de faire de la politique et de la façon d'envisager le monde qui nous entoure, la condition animale, ça participe à un combat pour la non-violence, je crois fondamentalement.
Alors justement, j'allais venir sur ce terrain aussi de ce que permet peut-être le débat sur la cause animale par rapport à d'autres thèmes qui sont encore plus larges et par rapport aussi à la façon de faire de la politique, puisque je rappelle quand même la question que nous posons ce soir, faut-il confier la cause animale aux politiques ? Discussion que nous menons avec la philosophe Corinne Pelluchon, la députée Europe Écologie Les Verts Laurence Abeille, et avec le biologiste Gilles Boeuf. Est-ce qu'il y a nécessité pour vous, Gilles Boeuf, en tout cas, de politiser davantage la question animale aujourd'hui ?
Moi, je suis pas un politique du tout. Je suis un biologiste, je suis un chercheur. Donc, encore une fois, si politiser, ça veut dire amener des éléments pour mettre de l'huile dans les rouages et améliorer la situation, tant mieux, allons-y. Hein. Dans la loi de Ségolène Royal sur la transition écologique, reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, la cause animale est implicite, même si ça apparaît pas aussi souvent que ça pourrait apparaître. Hein. Ceci étant dit, aujourd'hui, quand on parle du débat, par exemple, sur l'économie, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? C'est très simple, on le sait. Cette économie actuelle qui consiste à faire de l'argent en détruisant la nature, en la surexploitant, basta, c'est fini. Même les gens qui le pratiquent le savent très bien que c'est fini. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et la cause animale participe un petit peu à tout ça. Alors après, il y a une question qu'on n'a pas posée, qui pour moi aurait été essentielle au départ, c'est quoi un animal ? Parce que quand on parle de nos animaux, on a parlé des chiens, des chats, des chimpanzés, une huître est un animal aussi. Hein. Donc ça veut dire que, où mettons la barrière ? Alors, on nous dit, bon, ça commence avec la conscience de soi. Donc il y a des oiseaux, il y a des mammifères, un chimpanzé, il sait que c'est lui. Un chien, il ne sait pas que c'est lui, il va aboyer devant une vitre indéfiniment. Donc, il y a tout un regard. Et la cause animale, pour moi, est vraiment très très vague à ce niveau-là. Hein. Alors en plus, ce qui me gêne beaucoup dans les discussions politiques que l'on a, c'est qu'on parle que d'animaux domestiques. Et ça, je suis désolé, l'amour des animaux, c'est pas que le chien et le chat.
On parle quand même beaucoup aujourd'hui des animaux d'élevage, enfin de plus en plus souvent.
Bien sûr.
Et puis les animaux sauvages,
ils sont où ? L'éléphant aujourd'hui est dans une situation catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un marché de l'ivoire. Des gens qui vous disent en Afrique, j'étais récemment en Tanzanie, on me dit pour un Africain, c'est 300 000 euros. Une corde de rhinocéros aussi. Donc c'est là qu'il y a tout un système, effectivement, qu'il faut qu'on combatte. Et je pense que la façon la plus efficace, c'est de revenir à ce que disait Laurence sur l'économie. Il faut tuer ces marchés, en fait. Le trafic aujourd'hui des animaux, est protégé ou pas, est juste après le trafic de drogue et le trafic des armes. Hein. Donc c'est considérable. Il n'y a pas du tout que les problèmes d'animaux domestiques.
Corinne Pelluchon, est-ce qu'on peut dire que la cause animale, ça peut être aussi un moyen de régénérer le débat politique, voire aller un peu plus loin, c'est-à-dire de régénérer la démocratie, puisque comme on l'évoque depuis le début de cette émission, il y a aussi un certain nombre d'avancées qui se sont faites sous la pression d'un certain nombre d'associations. On voit bien que c'est cette fameuse démocratie délibérative ou participative qui fait aussi pression sur la décision politique aujourd'hui.
Oui, alors je me permettrai de revenir avant cette question à celle que vous avez posée tout à l'heure sur la politisation de la question animale, qui est effectivement la troisième vague des études de l'animalité, après l'éthique animale, la dénonciation de l'exploitation du spécisme, après des réflexions sur la manière dont nous avons représenté les animaux en gommant leur diversité. Je crois qu'aujourd'hui, la question c'est de regarder en face le paradoxe dans lequel nous sommes, c'est-à-dire on n'a jamais parlé autant des animaux et pourtant rien ne change dans les faits. Donc comment faire en sorte que quelque chose change ? Eh bien, penser une théorie politique, pour moi, globale.
Rien ne change dans les faits, vous êtes un peu sévère quand même, parce que justement 2015, le Parlement qui accorde aux animaux la qualité d'être vivant.
Les chiffres d'abattage, les chiffres, nous sommes 7 milliards et demi.
Abattage, c'est quoi, 3 millions d'animaux
Des milliards
par année.
Non, je parlais en jour, moi.
En jour ? Ah oui. Oui. Alors, en tout cas, je crois que c'est 65 milliards de mammifères tués par an dans le monde, mais je voudrais pas dire de bêtises, sans parler des poissons, etc. Bon, il y a quand même, et puis avec les productions, sont quand même de plus en plus, le fait de diminuer toujours les coûts de revient, évidemment, font que les cages sont quand même petites, bon, etc., etc.
Non, donc ce que oui, je voulais il faut dire, politiser la question
c'est,
animale.
Il faut politiser la question animale, justement, car il faut savoir comment penser les règles de coexistence entre les humains humains et les non-humains, y compris les animaux qui traversent nos territoires, les oiseaux qui viennent s'inviter dans nos jardins, les écureuils ou dans nos greniers, les souris, etc. Et puis, les forêts ne sont pas vierges, elles sont habitées par des singes, etc. Donc, il y a vraiment l'idée d'une coexistence. Évidemment, ce sont les humains qui décident de ces règles de coexistence, qu'on appelle la justice, mais évidemment, on peut s'appuyer pour les définir, non pas sur l'idée que nous serions les rois du monde et que les animaux ne seraient là que pour nous servir, mais sur l'idée qu'ils ont une agentivité, ce sont des agents moraux qui ont une sensibilité, qui sont aussi capables de communiquer, qui ont des intérêts, des préférences, et que celles-ci, ces préférences et ces intérêts sont le point de départ de droits que nous formulerons, mais qui répondent à leurs intérêts. Donc ça, et ça, je salue le travail qui a été fait par Kim Lika et Donaldson dans Zoopolis, et moi j'avais proposé dans les nourritures une théorie politique, incluant justement au cœur du politique, comme nouveau devoir de l'État, cette amélioration de la condition animale dans le cadre d'une démocratie. Et c'est là que la question de la réorganisation de la démocratie, avec son volet institutionnel, des changements institutionnels requis pour faire entendre cela, c'est vraiment partie liée au traitement de cette question.
Alors justement, oui, Laurence Abeille, sur cette capacité de la lutte pour la condition animale, pour une meilleure condition animale, sur sa capacité à régénérer le débat politique, c'est-à-dire que quand on lutte pour cette question-là, on lutte aussi pour beaucoup plus large et on lutte peut-être de manière différente. C'est-à-dire on fait de la politique, mais de la politique on voit bien autrement. Peut-être parce que d'ailleurs le personnel politique traditionnel a un petit peu de mal à s'emparer de ces questions-là.
Oui, il y a beaucoup de difficultés à s'en emparer parce que c'est vraiment un changement de modèle de pensée. Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu nourrir la France. On a industrialisé l'agriculture, l'élevage de façon massive. On s'est mis à dire à tout le monde qu'il fallait manger beaucoup de viande et manger du poisson. C'est quelque chose de très culturel. Alors, c'est vrai qu'il faut, je pense, politiser la question de la condition animale. L'animal est politique et nous devons absolument prendre en compte cet élément-là pour transformer dans une nouvelle direction les pratiques nos pratiques culturelles qui sont aussi, je ne sais pas moi, la corrida par exemple, certaines pratiques de la chasse, enfin des choses qui étaient dans la mémoire collective, qui restent des choses positives finalement. Et on peut régénérer le débat politique, je pense, en amenant une nouvelle réflexion, enfin qui n'est pas si nouvelle que ça, mais en tout cas elle n'est pas suffisamment répandue, une réflexion sur quel est le monde qui nous entoure. Nous sommes vivants, nous, mais nous avons autour de nous d'autres êtres vivants, ce sont les animaux, et nous devons faire autrement avec eux. Alors, la politisation, elle me semble absolument essentielle parce que on va aller vers des problèmes de droit aussi. Quand on parlait des animaux sauvages, les animaux sauvages n'ont aucun droit. Ils n'existent pas. Il n'y a pas de statut de l'animal sauvage. C'est-à-dire qu'on peut martyriser. On n'a pas le droit, par exemple, de martyriser un chat ou un chien. En revanche, chat sauvage, on peut le torturer sans aucune crainte d'être attrapé et puni pour ça.
Donc, si c'est des questions de droit, ça passe par la loi. Et donc, il faut que le législateur s'en empare.
Voilà. Donc il y a la législation doit s'en emparer. Moi, j'ai tenté de le faire sans succès, par exemple, sur le statut de l'animal sauvage au moment de la loi sur la biodiversité. Le groupe d'études chasse a mené son lobby là-dessus et ça a été, j'ai pas mené au bout. En revanche, j'ai pu amener le débat. Alors, amener le débat, c'est un début. C'est ce que j'ai pu faire avec d'autres ces temps derniers. Mais là, dans la prochaine législature, il faudra que passer à vitesse supérieure, c'est-à-dire réellement modifier le droit. Et puis, dans les politiques économiques, les politiques sociales, les politiques éducatives, redonner une autre impulsion à ce qu'on a comme considération vis-à-vis du monde animal et du vivant de manière générale.
Est-ce qu'on a un petit peu de retard par rapport, à nos partenaires européens, par exemple, ou par rapport à d'autres pays qui seraient davantage exemplaires sur cette façon d'aborder la condition animale, Gilles Boeuf ?
On est plutôt en retard par rapport à nos collègues anglo-saxons. Hein. En Grande-Bretagne, ça fait longtemps. Regardez la Ligue de protection des oiseaux en Angleterre, c'est plus d'un million d'adhérents. En France, l'LPO, c'est 55 000. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes considérations. Mais je reviens encore aux relations de l'humain et de l'animal. Tout à l'heure, on disait, on les a en permanence. Je vous rappelle que, à tous les quatre, là, ce matin, on avait dans notre lit 1,5 million d'acariens par lit. Hein. Donc, ça veut dire qu'on est dedans. Donc, on arrête de nous imaginer toujours tout seul.
Précisons que nous n'étions pas ensemble dans le même lit.
Non, mais qu'on soit tout seul ou deux, ça marche très bien, mon histoire de 1,5 million d'acariens par lit. Et chez les filles et les garçons, c'est pareil. Qu'on dorme tout seul ou à deux, c'est pareil. Donc, simplement, c'est pour nous rappeler. Je dis souvent aussi, c'est pas des mots, mais un corps humain, il y a plus de cellules non humaines dans un corps humain que de cellules humaines. Donc, acceptons enfin de faire partie d'un tout, et quand on va partir de ce tout et qu'on admettra ce que les animaux savent depuis 4000 ans, en fait, hein, et bien je pense que ça changera notre considération vis-à-vis des animaux tels qu'on l'évoque tout à l'heure ici.
Qu'est-ce qui rivalise avec les incontournables crottes de chiens, les inévitables fientes de pigeons? Les dégâts occasionnés par ces volatiles décoratifs mais envahissants coûtent à la collectivité des sommes à ce jour pratiquement inchiffrables. Quelle solution pour diminuer le nombre de pigeons? En voici une. Le docteur Miracle est un laboratoire pharmaceutique vétérinaire qui a mis au point la pilule pour les pigeons.
Notre produit s'appelle l'ornistéril. Il est à base de progestérone comme la plupart des pilules féminines. L'ornistéril se présente sous une forme de grain de maïs enrobé de progestérone. Ce produit se donne tous les jours, mais s'il y a une interruption, le week-end par exemple, on peut donner la dose double le vendredi et le lundi.
En France, cette pilule est distribuée dans une trentaine de villes par les services municipaux. Mais à Paris, vu le trop grand nombre de pigeons, la mairie ne pourrait pas assumer cette tâche quotidienne. Ce sont donc des bénévoles qui s'en chargent.
Écoutez, dans le fond, c'est comme les gens. S'il y a beaucoup de monde, et bien vous êtes étouffés. Hein ? Bon, alors.
Reste à savoir si tous les Parisiens sont d'accord pour que la contraception fasse diminuer le nombre de ces ornements dans la capitale.
Voilà, extrait d'un reportage consacré aux nuisances causées par les pigeons à Paris. C'était sur Antenne 2 en 1992. Gilles Boeuf, on a choisi ce reportage parce que...
Cette progestérone est active chez la femme aussi. Hein. Donc, en train de parler de perturbateurs endocriniens partout en ce moment, je ne sais pas si c'est judicieux de balancer des hormones femelles un peu partout dans la nature, voilà, à Paris. Hein.
Ça, c'était en tout cas en 1992. Ça nous semblait assez intéressant parce que à la fois, c'est une façon de considérer l'animal, en tout cas certains animaux, comme une nuisance qu'il faut régler. Mais en même temps, il y a bien la prolifération de certaines espèces qui oblige l'être humain à prendre des décisions qui peuvent être des décisions défavorables aux animaux. Comment est-ce qu'on arrive à intégrer ça politiquement quand on défend la cause animale quand une pelluchon? C'est compliqué.
Oh ben ça, c'est du cas par cas. D'ailleurs, dans beaucoup de cas, les animaux prolifèrent parce qu'on les invite, pour ainsi dire, à la maison quand on manque d'hygiène. Par exemple, c'est le cas des rats, des choses comme ça. Mais effectivement, ces animaux qu'on appelle liminaires, qui sont très divers, le pigeon, les écureuils, les souris, souvent on leur dénie tout droit à exister, on les extermine, on les déplace. Bon, il y a des mesures, effectivement, mais ça c'est du cas par cas. Je crois que la politisation de la question animale n'exclut pas ces règlements-là, ces réglementations, mais elle est plus générale, elle est vraiment pensée autrement, une société est composée avec les intérêts des non-humains.
Composer avec, ça veut dire aussi devoir gérer parfois les nuisances et devoir prendre des mesures un peu radicales, Laurence Abeille.
Alors, en fait, le problème qui se pose, c'est que la question de la biodiversité en milieu urbain, en particulier, n'est pas encore suffisamment étudiée et n'est pas, ne rentre pas, je dirais, dans les cahiers des charges des aménageurs ou des gens qui travaillent sur le développement des villes. Et donc, comme il y a une méconnaissance des acteurs dans ce domaine-là, on voit apparaître de temps en temps des rats quelque part. Parfois, c'est tout simplement parce qu'on fait un gros chantier à côté et que donc les rats sont déplacés, donc ils vont être en surnombre pendant un certain temps. Une fois que le chantier est terminé, les rats repartent chez eux. Les pigeons, c'est un peu la même chose. C'est quand il y a des déséquilibres en fait entre les espèces qui, parce qu'il y a des prédateurs. Alors s'il n'y a plus de prédateurs, effectivement, il y a certaines espèces qui prolifèrent. Et je pense que, enfin, évidemment, il faut dans certains cas faire attention. Par exemple, les chats sont les plus grands prédateurs d'oiseaux. On dit qu'il y a des oiseaux, les oiseaux disparaissent des villes, les petits oiseaux, les moineaux, ce sont pour beaucoup les chats qui et c'est quelqu'un du Muséum d'Histoire Naturelle qui me l'a expliqué.
C'est un vrai problème.
C'est un vrai problème, les chats. Donc, il y a des bénévoles qui se chargent de stériliser les chats dans les villes parce qu'effectivement, sans doute, il faut le faire. D'autres, ça n'empêche pas de les nourrir, mais il faut les stériliser pour pas qu'ils se reproduisent trop. Mais en amont, je pense qu'il faut intégrer dans l'aménagement de la ville cette question de la biodiversité, et ça n'est pour à l'heure actuelle encore pas suffisamment.
Le Mahatma Gandhi disait en fait, on juge du niveau de civilisation à travers son comportement vis-à-vis des animaux. Donc je pense qu'on devrait bien s'en inspirer pour aller un petit peu plus loin. Et c'est vrai que la prolifération des chats est un problème dramatique en Nouvelle-Calédonie par exemple. Pas en ville, mais dans la forêt, parce qu'ils mangent des espèces qui n'ont jamais été confrontées à des prédateurs. Et croyez-moi, éradiquer des chats dans la nature, c'est pas facile. Mais c'est encore une pratique humaine qui a amené à ceci, bien sûr.
Mais sinon, je voulais dire qu'à New York, il y a quelques années, à Manhattan, ils avaient éteint les gratte-ciels afin que les oiseaux migrateurs, après minuit, puissent ne pas être perdus, hein, puisque les oiseaux migrateurs confondaient les luminaires avec la lune et qui leur permettent de se diriger. Donc il y avait quand même, dans l'aménagement des villes, un certain nombre de prises en compte des modalités de vie des animaux.
Voilà, ben on verra bien. En tout cas, si ces questions absolument passionnantes émergent de plus en plus à la faveur de cette campagne ou de ces multiples campagnes pour les présidentielles, puisqu'il y a les campagnes pour les primaires. Je ne sais pas, Laurence Abeille, si on a les résultats absolument définitifs. Si on a les résultats définitifs de la primaire écologiste du premier tour, en tout cas, Yannick Jadot et Michel Rivasi qui sont qualifiés pour le deuxième tour. Cécile Duflot est éliminée, ainsi que Karima Delim. Enfin, ça, ce serait l'objet d'une autre émission. Il y aura donc un second tour entre Jadot et Rivasi, ce dont va sans doute nous parler dans un instant Anne Fauquemberg. Avant cela, je remercie comme chaque soir évidemment toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer, Isolde Sicard, émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son ce soir Anthony Thomasson. Demain, nous serons à Bruxelles dans le cadre d'une journée spéciale de France Culture au Palais des Beaux-Arts, reconstruire l'Europe, et nous nous demanderons dans le Grain si une Europe de la défense est enfin possible.